Alléluia. Oui, bonjour micro. Je remercie le concepteur de ce magnifique objet qu'on peut utiliser à loisir. C'est juste génial. Ok, donc je me suis bien installé. Vous aussi, j'espère. Donc je travaille avec mes deux écrans parce que mon problème, c'est que j'ai... C'est que j'ai, il faut que ça marche. Ah ! Le calendrier du bonheur. Lundi repos, après le week-end, c'est bien. C'est demain, c'est mardi sieste. Dodo. On va se reposer. Pause édredon, cure de sommeil. Il n'y a rien à dire, c'est cool. Donc l'idée, c'est de rester dans le repos. Déjà. J'espère que vous êtes bien confortablement assis. Vous ne pouvez pas grand chose parce que ce sont les fauteuils qui sont ce qu'ils font ce qu'ils font. Puis je verrai un jour tous les gens tout d'un coup partir, s'installer, ça serait assez drôle quand on dit ce genre de choses. Donc voilà, soyez dans le repos, on est cool. Mais j'espère quand même pas vous endormir. Ça serait un peu dommage. Mais c'est important parce qu'on va parler ce matin de prophéties, de choses prophétiques, et forcément. On a parfois tendance à fabriquer des choses, à les construire, à chercher à tout prix à produire quelque chose. Et j'aimerais vraiment pas qu'on soit là-dedans ce soir, ce matin. Autre chose aussi, forcément, quand on va aborder ce sujet, on est dans un domaine où les choses sont parfois un petit peu floues, ne sont pas toujours aussi nettes qu'on l'imagine, ou carrées en tout cas. Oh, c'est pas cool parce qu'il y a un truc qui se voit, il y a un truc qui se voit pas. Je me bagarre avec ma technique, donc ça va aller, ça va venir. Mais on est juste dans une petite introduction. Alors que je préparais ce message, je voulais dire ça, et puis ça, et puis ça, et puis tout d'un coup je me disais, mais c'est pas possible, je fais comment? Et du coup, je suis même mis dans le repos, finalement. J'ai. Un certain temps ce matin, et ça s'arrête là. Par exemple, quand il y avait l'école de prophètes qui fonctionnait sur Belfort, c'était 25 heures par semaine, multiplié par 4 semaines par mois, ça faisait 100 heures de formation, plus sur 4 mois, ça fait 400 heures. Si je produire la même chose avec le culte, si je prêche une heure là-dessus tous les dimanches, ça fait 50 grosses semaines par an, il faut au moins 4 ans pour arriver au même volume horaire. Juste pour expliquer que c'est pas une demi-heure qu'on fait le tour d'une genre de question. On va juste dire que c'est un premier fondement, une première couche. Et si vous restez frustré à la fin de ce message, eh ben c'est normal parce que on va pas tout voir. Du coup, je suis pas dans la condamnation, dans la culpabilité. Je me suis déjà déposé. Je porte rien du tout. Je porte ce que j'ai apporté aujourd'hui et ça va s'arrêter là. Mais j'espère qu'on va continuer. L'idée c'est pas de s'arrêter, c'est vraiment de continuer. Ok, c'est le domaine de la prophétie, le don des prophéties. On va juste faire une toute petite. Ah, c'est ce que je disais, je suis bagarre avec les deux. On va pas tellement parler du ministère de prophète. On fera quand même quelques petites introductions, toute une excursion là-dessus tout à l'heure. On va pas forcément parler du prophète, mais du don de prophétie. Alors, pour commencer. Le plan d'aujourd'hui. On va faire une petite révision, puis on va poser quelques fondements, des éléments, puis après la prière, et puis de la pratique. Et tout ce qui est là, c'est pour la pratique. Alléluia. Donc, pendant que vous êtes assis tranquillement sur votre chaise, le Saint-Esprit, lui, continue à travailler. Il travaille en tâche de fond. Vous savez, quand les ordinateurs, on travaille en tâche de fond. Il y a quelque chose qui se passe, et puis on fait autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Et notre esprit, il est au travail avec Dieu, même si nous-mêmes, on n'en est pas toujours conscient. Donc tous ces objets-là qui sont là, ils vont vous aider tout à l'heure à peut-être donner des paroles à quelqu'un. Et donc je les laisse sur la table volontairement pour que ça puisse faire son travail, que ça bosse. Et tout à l'heure, ça va sûrement faire pour plusieurs... Ah ouais, ça c'est peut-être personne. Alors juste... Vous le proposez à la personne et après elle essaie de le remettre sur place. Parce que par exemple, il y a un billet de 10 euros, ça n'a pas trouve à la sortie. Il y a un permis de conduire aussi. Voilà. Ça marche ? Donc tous ces objets sont tout à fait complètement disponibles pour donner des paroles prophétiques tout à l'heure. On a déjà fait ça il y a longtemps, quand on faisait graines de prophète et quand on a fait déploie tes ailes. Et c'était toujours des chouettes moments. Et puis du coup, ça semblait tellement simple que du coup, on l'a presque mis de côté. C'est dommage. Et chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pu voir les résultats. Alors, révision. Ah. Qui c'est qui peut me dire ce qu'il a retenu du message? Ah ouais, c'est cool, c'est voilà. Du message de du 13 janvier. Bon. Je garde ça pour moi pour l'instant. Deux, trois choses de ce message. Pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être compliqué. Alors vous allez peut-être écouter sur le site. Moi je l'ai réécouté hier. Donc on se rappelle que c'était sur la parole de connaissance. Juste quelques trucs. Waouh. C'est pas pour critiquer les gens. Ça vient de la part de Dieu, ça permet de dire quelque chose à une personne. Redis-moi toute la phrase, que je la répète. On n'aurait pas su. Tout à fait. On parle du maintenant, pas de l'avenir. Connaissance. Dieu nous connaîtra. Et on révèle la connaissance à l'autre de Dieu. De ce que Dieu le connaisse. Ok. Alors juste... C'est intéressant parce qu'on peut voir que si sur au bout de 15 jours on a oublié la plupart des choses ou on ne les sait pas, comment grandir? Et si j'avais été de l'autre côté, peut-être que j'aurais les mêmes difficultés à répondre. Okay? Mais ça veut dire aussi qu'on doit travailler. Alors il y avait le fondement général, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Quel était le fondement général? Ok, je le dis pas, je reviendrai après. La parole de connaissance, c'est quoi? Donc c'est vraiment quelque chose qui est donné, c'est une connaissance dans la vie de quelqu'un que tu n'as aucune chance d'avoir normalement. C'est un état, c'est sur le passé et sur le présent, c'est pas dans le futur. Donc la parole de connaissance est limitée à ça, et souvent ça permet de faire une première étape avec la personne. La personne, du coup, peut voir à quel point Dieu la connaît. Être intentionnel. On a dit que parfois on collabore avec Dieu, on travaille avec lui. Et on avait vu que ces passages qu'on avait lus parlaient d'aspirer. Alors j'ai failli amener un aspirateur. Et puis bon, peut-être t'exagères un petit peu. C'est intéressant parce que l'aspiration, que ce soit ici, on fait travailler nos muscles, la cage thoracique, peu importe ce qu'on va faire, on va être obligé d'aspirer. On a une intention. Alors on respire normalement, mais pour l'aspiration, c'est intentionnel. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a besoin de cette collaboration avec le Saint-Esprit. Et si tu arrêtes d'aspirer, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Donc, le sac peut être plein, mais il faut continuer à aspirer pour garder le mouvement. Et la pratique va donner de la croissance. C'était aussi ça, c'est qu'on allait davantage pratiquer et aller vers l'extérieur. Ok, ça on a déjà vu. Alors, pour la prophétie, j'ai repris le cadre général, c'est ce que je suis en train de poser ici. Et il y a 3-4 chapitres qui sont toujours clés là autour. Le premier, c'est 1 Corinthiens 12. Il y a pas les outils, et on les a vus, on les verra tout à l'heure. Il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour et d'autre chose. 1 Corinthiens 14 qui nous parle de l'opérationnel, les dons, la pratique. Donc du coup, quand j'ai retravaillé là-dessus, c'est intéressant de voir le cadre que Dieu avait donné. On parlait d'un cadre tout à l'heure et je pense que c'est important. Donc à 41:12, on va pas tout relire, mais en tout cas ça commence par Paul qui dit « Je veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Il y a une idée de Dieu, de Paul qui dit « Mais il faut que vous sachiez ces choses-là ». Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Vladimir nous l'avait expliqué aussi la dernière fois. Chacun de ces dons est comme notre arsenal à utiliser. C'est comme en peinture, j'ai plein d'outils, j'ai des pinceaux, des crayons. C'est comme pour le maçon, il a besoin de ses outils. Si j'ai pas d'outils, ou bien que j'ai l'impression vague qu'il n'y a qu'un seul et même outil, attention, on va s'appauvrir. C'est quelque part, fait partie de notre héritage qu'on a là. Donc si tu ne connais pas ton héritage, tu ne vas jamais le chercher, tu n'en as pas. Ou bien c'est une espèce de fatras que tu ne sais pas ce que c'est. Donc pour l'instant, on a travaillé essentiellement sur... Est-ce qu'il y a un pointeur ici ? Ah oui. La parole de connaissance et le don de guérison. Et on va essayer de voir les autres. Donc on a commencé dans 41, 12. Et les paroles sont là. Mais il y a quoi qui apparaît dans 1 Corinthiens 12 très fort, je trouvais. Si vous avez juste lu les quelques mots, il y a un mot qui revient pratiquement tout le temps, du début à la fin. Parce que les dons peuvent avoir tendance à faire quelque chose, et du coup, Paul les a enfermés, entre guillemets, ou les a liés à quelque chose d'autre. Un, même. Alors il y a un même, mais surtout le mot un. On a le même Seigneur, le même Esprit, le même Dieu. Il y a quelque chose qui dit, mais il y a cette unité qui est proposée. C'est l'Esprit qui donne toute chose. Par l'Esprit, ça vient par le même Esprit. Ça veut dire aussi que si l'origine est la même, on doit arriver plus ou moins au même résultat. Et que c'est pas parce que l'un a une parole de connaissance et l'autre une prophétie ou une parole de foi que c'est pas le même esprit qui est au travail. Et on continue dans les versets et effectivement on retrouve un seul et même à chacun en particulier et on parle d'un corps. Plusieurs membres, tous les membres et malgré leur nombre ne sont qu'un seul corps. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes tous ses membres. Donc il y a quelque chose où Paul dit, il y a les dons et ces dons doivent procéder et travailler dans l'unité. Alors, unité ne veut pas dire uniformité. Par exemple, ce matin, il y avait des danses. Est-ce qu'il y avait une unité ? Oui. Est-ce qu'il y avait une uniformité ? Non. Et puis, il y a un autre élément qui est donné, toujours dans ce passage. C'est un cadre. Dans l'Église, il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, il y a les dons. Tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres? Donc il y a une idée qui dit, on va travailler sur, sur ces dons, mais ils sont dans le cadre général de l'unité et dans le cadre général de la gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi en général? Comment est-ce que se manifeste la gouvernance dans l'Église normalement? Quel est le... Par qui, par quoi? Quel est le cadre prévu de la forme de gouvernance? Même si on ne le voit pas toujours. Les anciens? Ouais. Au fond du fond du fond du fond. Les cinq ministères? La apôtres et les prophètes? On est presque. On oublie les titres. Qu'est-ce qui reste? C'est quelque chose qui fait partie de notre vision et mission. Le cadre de la gouvernance, c'est une famille. Donc, ça veut dire que ces ministères-là sont appelés à se développer dans le cadre d'une famille. Alléluia. Ça va. Je vais peut-être arriver au bout dans les temps. Alors, quel était l'élément suivant ? Le fondement du fondement du fondement. L'amour. L'amour est un magnifique fondement. Alors j'ai trouvé quelqu'un qui en parle peut-être un peu mieux que moi. J'ai trouvé une magnifique paraphrase qui m'a bien parlé. Donc je vous partage cette paraphrase. Donc je vais inviter un petit groupe à parler mieux que moi de ce truc-là. Donc on va prendre 5 minutes là-dessus. Et ça s'appelle King and Country. Ce sont aussi des Australiens. Si je chante mais que je n'ai pas l'amour, je gaspille mon souffle avec chaque chanson. On a chanté ce que l'on gaspille notre souffle. J'apporte une voix vide, un bruit creux. Si je parle avec éloquence, convaincant une foule, mais n'ai pas l'amour, je laisse un goût amer avec chaque mot que je dis. Alors que ma vie soit la preuve de ton amour, que mon amour ressemble à toi et à ce que tu fais. Comment tu as vécu, comment tu es mort, l'amour est sacrifice. Alors que ma vie soit la preuve de ton amour. Si je donne une âme dans le besoin, mais je n'ai pas d'amour, alors qui est pauvre ? Il semble que toute la pauvreté se trouve en moi. Alors que ma vie soit la preuve de ton amour, que mon amour te ressemble à toi et à ce que tu as fait, comment tu as vécu, comment tu es mort, l'amour est sacrifice. Que ma vie soit la preuve de ton amour. Quand tout est dit et fait, quand nous chanterons notre dernière chanson, seul amour reste, seul amour reste. Que ma vie soit la preuve de ton amour. Que mon amour te ressemble à toi, à ce que tu as fait, comment tu as vécu, comment tu es mort. L'amour comme unique fondement. Alors c'est en anglais, mais gardez les paroles en tête.
If I sing but don't have a love, I waste my breath with every song I bring. An empty voice, a hollow noise. And if I speak with a silver tongue, convince a crowd but don't have a love, I need a bitter taste with every word I say. So let my life be the proof of your love. Let my love look like you and what you're made of. How you lived, how you died, love is sacrifice. So let
have love, and who is poor, it seems all the poverty is found in me.
So let my life be the proof of your love. Let my love look like you and what you're made of. And how you lived, how you died, love sacrifice. So let my life be the proof of your love. Whoa, when it's all said and done. Whoa, when we sing our final song. Only love remains, and only love remains.
If I speak with human eloquence and angelic ecstasy, but don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate.
passage
en Corinthiens 13. Revealing all of his mysteries and making everything as plain as day. And if I have faith, you say to a mountain, jump, and it jumps. But I don't love, I'm nothing.
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
If I give all I own to the poor, or even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've got nowhere. So, no matter what we say, no matter what we believe, no matter what we do, we're bankrupt without love.
Sans l'amour.
If you believe that tonight, then let me hear you sing this chorus with all of your hearts.
Si
make it your anthem.
Oh, let my life be the proof.
The proof of la preuve de son amour. Que ma vie soit la preuve de ton amour. L'amour est sacrifice. L'amour est sacrifice.
The proof of your love, let my life be the truth.
Amen. Ça nous bouscule un petit peu. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler que l'amour est sacrifice. Que l'amour n'est pas toujours facile, pas aisé. Mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Il est dit à un moment donné que si je n'ai pas l'amour, alors ce que je dis, c'est comme un airain qui résonne. C'est ça ma prophétie. Je crois que, et si vous regardez ce qui se passe, que la personne dit « mais je ne suis rien », ça touche notre identité. Mais à cause de notre identité qui n'est pas fondée, alors quelque part, c'est comme si notre prophétie devenait juste un son. Quelque part, il y a un potentiel, si on prophétise sans amour, à rendre nos prophéties caduques. Et je pense que Dieu peut utiliser toute personne, même des mauvaises personnes pour nous prophétiser, c'est pas un problème. Mais parfois, notre attitude va rendre la prophétie caduque. Elle va rendre la prophétie inacceptable, irrecevable, incompréhensible. Et alors, on est juste un son. Je vais continuer sur le cadre que Dieu a donné aux prophéties. L'amour ne se comble jamais, tout ça, on est venu. J'aimerais arriver au verset 11. Non. Verset 9. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Paul, il dit ça à des gens qui apparemment pratiquent les dons spirituels. Est-ce que parfois avec nos prophéties, nous ne sommes pas tellement absolus? C'est ma prophétie. Je sais ce que je raconte. Vous avez intérêt à m'obéir ou bien à faire ce que je dis ou d'une certaine manière. On croit tout maîtriser. L'exercice de la prophétie demande de l'humilité. On ne peut pas imposer certaines choses. Dieu peut imposer, pas nous. Donc quand nous travaillons avec le don prophétique, soyons humbles. C'est partiellement que nous prophétisons. On a beau être le plus pointu possible, c'est partiellement. Rappelons-nous de ça, quand on est parfois on vient avec tellement d'assurance. La prophétie, toujours, demande un cadre de maturité. Donc c'est pour ça que je suis en train de voir tout le cadre que Dieu a donné pour tous ces dons. J'espère qu'on va encore une fois travailler sur tous ces dons. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Il faut de la maturité. Quand je suis un gamin, je peux faire des crises de nerfs, des petites... je veux ma glace. Ok. Parfois, adulte, on fait aussi ça. Dans ce domaine-là, soyons matures. Travaillons comme des adultes. Je crois que vraiment, c'est des choses, des éléments de base pour nous. Parlons avec humilité, avec respect. Et la maturité spirituelle, ce n'est pas une question d'âge. C'est juste une question de caractère et de position et d'identité en Christ. C'est de ce qu'on fait comme chemin avec lui. Je peux avoir 20 ans, ce que je n'ai malheureusement plus depuis un petit moment, et avoir plus de maturité de quelqu'un qui a 60 ans. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Mais ça aide. Quand on s'est cassé la figure pas mal nombre de fois, ça aide. Les cheveux blancs, c'est pas que des réussites, c'est pas mal d'endroits où ça peut planter. Juste en parlant de cette petite... le fait de ne pas tout savoir. Je reprends Isaïe 60, la fresque qu'il y avait l'année dernière, là-bas avec le... Quelque part, on avait reçu ça au mois de février, donc on l'a dessiné et on l'a mis en route au mois de mars. On était à cheval entre les deux mois. Et puis, à un moment donné, et j'avais reçu ça pour nous au départ, et puis j'ai démarré avec ça. Et au fur et à mesure que je dessinais, au fur et à mesure que je travaillais, je recevais des révélations qui s'ajoutaient aux révélations. Donc la révélation initiale avait largement, largement grandi. Et puis, voilà. Et puis Luc et Manu sont partis en Israël. Et leur conférence au mois de mai, Isaïe 60, était là du début à la fin. Cool. Est-ce que j'ai pu prévoir ça? Nada. Et puis après, je sais qu'au mois d'août, à un moment donné, on a une réunion avec le leader, et puis j'ai dit, mais Isaïe 60 n'est pas fini. Je ne sais pas comment, mais ce n'est pas fini. Je n'ai plus rien vu pendant tout un temps. Et puis, est arrivé un temps de prière pour la France. Et un courrier qui est arrivé le 26 novembre, d'ailleurs qui est affiché au Collège Daniel, 3 semaines en faveur de la France où Dieu nous a placés en mission. Chaque jour un thème de prière jusqu'à pouvoir proclamer avec foi sur la France que Dieu dise à Israël par la bouche du prophète, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60. Toutes ces 3 semaines de prière étaient sous le mandat d'Ésaïe 60. Qui a démarré avec Hanouka? Du 1er au 21. Non, il y avait Hanouka au milieu et c'est à ce moment-là aussi on a dessiné ce tableau. Est-ce que j'avais toute la maîtrise de ce qu'il y avait au début à la fin? Ben non. C'était complètement partiel. Et j'ai fait juste mon étape à moi, et les choses sont venues au fur et à mesure. Donc sachons qu'on est juste en chemin. Un autre passage que j'aime bien là-dessus, je crois que j'ai déjà partagé ici, je ne sais plus, c'est dans Daniel 9. Daniel, vous savez qui c'est, pour certains? Oui. Il avait quand même déjà pas mal, c'était comme cette personne qui avait ses visions, qui pouvait, sans recevoir le rêve, raconter le rêve et l'expliquer. C'est pas mal dans le domaine prophétique. Moi je trouve que c'est bien. D'ailleurs dans ces histoires-là, c'est intéressant de puissiez faire des études éventuellement dans l'histoire de Daniel, où est la parole de connaissance et où est la prophétie. Parce qu'à un moment donné, il fait un état des lieux quand il parle au roi. Voilà ce qui se passe, voilà ce que tu as fait. Et là, on n'est plus dans la parole et connaissance. Et après, on la rend dans le prophétique. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va arriver? Comme à un moment donné, il dit au roi, tu vas te retrouver par terre et tu vas être comme un animal. Ça va arriver, oui. En tout cas, Daniel 9, c'est après tout ça. Daniel, il est là et puis il lit simplement un texte. Et il se rend compte qu'au travers de ce texte, que les 70 ans, était arrivé à un terme et que Israël pouvait être libéré, qu'un temps était fini et qu'il pouvait rentrer dans un autre temps. Et il comprend ça, il se met à jeûner, à prier, à intercéder. Et il y a un tas de choses qui se met en place. Et puis il y a Daniel 9, verset 23. Après qu'il a commencé à faire tout ce travail en profondeur, il y a un ange qui vient et lui dit, écoute, je vais t'expliquer, je vais te faire comprendre ce dans quoi tu es rentré. C'est intéressant. Daniel, ministre, sagesse, expliquait les rêves. Il avait compris quelque chose et Dieu l'a amené bien, bien, bien plus loin. Et on voit que dans la suite de la prophétie de Daniel 9, la partie qu'avait compris Daniel n'était qu'un élément et Dieu l'emmenait beaucoup, beaucoup plus loin. Donc soyons humbles, sérieusement. Et je ne sais pas ce que ça fait là. Et on se retrouve encore avec, après ça on a 1 Corinthiens 14, ben là on dit comment ça se pratique. On a tout un passage où on apprend qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à la fin de ce passage, il y a un cadre à la pratique. On parle de soumission, on parle de gouvernance de nouveau, de respect des révélations, d'ordre. Donc tous ces ministères, ces dons, pas ces ministères, ces dons, doivent travailler de commun accord. Et j'ai voulu reprendre ça comme ça. Il faut de l'amour, la maturité, de la gouvernance, du respect, de l'humilité, de l'unité. Alors les dons peuvent grandir. Et j'ai bien aimé ce cercle, parce que ce cercle nous parle d'alliance. La prophétie en elle-même. Alors, j'ai bien aimé, même Wikipédia ne dit pas que des bêtises. Je n'ai pas tout pris de chez eux, mais... Dans les religions abrahamiques, une prophétie consiste en des paroles ou des écrits divinement inspirés qu'une personne reçoit par révélation. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Notre intelligence ne nous sert pas beaucoup. Dans un premier temps, on verra que ce n'est pas tout à fait fini. Quand une personne prophétise, elle dit ou écrit ce que Dieu veut qu'elle sache pour son propre bien ou pour le bien des autres. La prophétie n'est pas l'apanage des prophètes. Une personne peut recevoir une prophétie ou une révélation pour sa vie personnelle. Et à la différence de la parole de connaissance qui a trait au passé et ou au présent, la prophétie a trait au futur, forcément. Donc la prophétie, j'allais envie de dire, mais... Je ne l'ai pas dit, mais bon, être connecté, ça c'est une obligation. Je reviendrai après sur dessus. Ok. Quels sont le médium ou les médias utilisés? Comment se manifestent ou comment peuvent être exprimées les prophéties? Alors parler, ça semble une évidence. Écrite, c'est aussi une évidence. Des visions. Quelqu'un reçoit une vision, tout à fait, c'est des images, des rêves pendant la nuit, la conversation. Suivant qui tu es, parfois c'est juste pratique et c'est intéressant parce que David a écrit ça l'autre jour de manière très intéressante avec moi. Quand il disait quand je parlais avec quelqu'un, le fait de parler avec quelqu'un, j'étais plus mieux capable de comprendre la parole de Dieu, de l'entendre. Parfois on a l'idée que le ministère prophétique, c'est juste le gars qui se promène dans les vignes ou tout seul, dans sa chambre, il a tout fermé, et c'est là qu'il reçoit tout. Et c'est pas mal ça déjà. Mais éventuellement, il peut y avoir d'autres choses. Et parfois, c'est quand tu parles avec quelqu'un. Juste le fait de communiquer avec l'autre, d'expliquer tout d'un coup, ça commence à couler. Si tu as besoin de connecter à quelqu'un d'autre, connecte-toi à quelqu'un d'autre. Télévision? Ça peut être un cadre pour recevoir de la prophétie? Internet? Ouais, je vais revenir là-dessus après. Actes, des actes prophétiques, des danses, des musiques, des dessins, des photos, une lecture, une bannière. En fait, la prophétie est omniprésente du début à la fin de la Bible. C'est un des trucs qui est tout le temps là. Est-ce que, par exemple, on parle d'actes prophétiques? Est-ce que vous en connaissez dans la Bible que vous avez vu ou qu'on aurait partagé rapidement? Parce que j'ai pas fait toute la liste exhaustive de tout ce qui s'est passé. Mais quels seraient quelques exemples d'actes prophétiques ou de paroles prophétiques? Donc là, je vous mets un petit peu au travail. Josué devant Aï, explique-nous, en deux mots. Tout à fait. C'est intéressant. Je prends une lance, je suis tout seul, je la lève, je gagne la bataille. Je la baisse, je perds. Allumé, éteint, allumé. C'est juste incroyable de se dire que ce petit geste fait dans la foi et dans l'obéissance amène la victoire. Amen. Autre chose. Osée qui épouse une prostituée. Alors celle-là, vous savez, il y a des gens qui, je me rappelle juste, il y a très longtemps dans mes débuts, il y en a qui, pour au niveau prophétique, je ne dirais pas où c'était. Il y en a qui ont dit, mais moi je fais que ce qui est écrit dans la Bible. Ben, bon courage, hein. Moi je suis désolé. Je ne souhaite pas. De toute façon, je suis marié, donc c'est un peu. loupé, hein, je peux pas revenir. Mais quand même, je joue, quelqu'un fait ça dans notre église. On a l'air malin. Hein. C'est sympa. Ça, c'est ce genre de choses que... Et il y a derrière toutes les paroles qu'il va donner, il y a plein de choses. Autre chose. Gédéon, qui c'est qui a parlé? Oui. Ok. Donc là, il a demandé un signe. Je ne sais pas si c'est plus de la foi que de la prophétie, mais il a demandé un signe à Dieu et il s'est passé un miracle. Je ne vais pas traiter ça plutôt au niveau des miracles. Mais il y a cette conversation avec Dieu. En tout cas, c'est dans le surnaturel. Et la toison est mouillée une fois et puis après, c'est toute l'herbe qui est mouillée par la toison. Ce qui est un peu compliqué à faire quand même. Ok. D'autres choses? Joël? Amen. Amen. Ça s'est réalisé? Ça se réalise, ça? Amen. En Israël, ça se réalise complètement. Oui. Élie. Comme? Avec les prophètes de Baal. Mmh. Tout ce travail. Il y en aura comme ça, on pourrait en raconter, mais juste, il y en a du début à la fin. Les prophéties sont omniprésentes. Il y a les prophéties, même quand par exemple, Abraham fait un sacrifice à un moment donné, Dieu lui parle et dit que son peuple va être en prison, en esclavage pendant 400 ans. Dieu lui parle déjà du futur. On verra, je parlerai de tout ça tout à l'heure parce que c'est pas juste... Aller dans tous les sens. Ok. Alors, quelle interaction entre différents noms? Je les ai pris un peu différemment. Donc, il y a la parole de sagesse, connaissance, discernement des esprits. Bon, c'est ce que nous avait proposé Nadine comme classement. Mais je l'ai gardé. Qui étaient des dons de révélation. Après, les... Des dons de... J'ai oublié le mot... Je ne sais plus. Donc il y a la prophétie, diverses sortes de langues. La foi, les dons de guérison et d'opérer des miracles. D'inspiration, c'était l'autre. Voilà. L'idée était la suivante. Je les ai classifiés en trois... Et c'est juste dangereux de toujours classifier, mais quand même. Les trois premiers, diagnostic, analyse, audit, radio, scanner. Quand on reçoit une parole de connaissance, c'est pour le passé et le futur. C'est comme si on passait une radio de la vie de quelqu'un, si on faisait un audit. Pardon? Le passé et le présent. Merci. Le discernement des esprits, c'est pareil. On arrive à voir ce que la personne a. Et puis après, on se retrouve avec quelque chose qui est plus une communication en direction. Souvent la prophétie, parce que ça parle du futur, et non pas du présent, va nous emmener dans une autre dimension. Et puis après, on a de la puissance, au travers de la foi, des dons de miracles et d'opérer des miracles. Ce que je vous proposerais, c'est que souvent, très souvent, on commence par une parole de connaissance. Très courtement, mais c'est souvent une parole de connaissance. Là-dessus, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a posé l'état, démarre la prophétie. C'est-à-dire qu'on déclare le futur, on l'appelle à l'existence. Et après, souvent on a un temps de prière et un don de puissance qui est manifesté. Par exemple, je prends l'exemple de ce matin. Il est où notre cher ami Lucas? Il est là. Parole de connaissance, quelqu'un a ce fardeau de culpabilité et de... condamnation, parole de connaissance. Dieu ne veut pas. Il désire le meilleur pour toi. Prophétie. Et puis on arrive derrière la prière. Donc c'est parfois difficile de dire c'est qu'une chose dans un moment, mais c'est souvent emboîter les uns avec les autres. Donc du coup, parfois, on a eu... Comment dirais-je ? On a appelé le tout parole prophétique. Alors, comme la prophétie donne une direction, elle est un transmetteur de l'action à mener, de la direction à prendre. Par nature, elle peut être directive. Par nature, elle peut être directive. Et à cause de cela, on peut se laisser se piéger. Pourquoi ? Comment ? Ben, si on ne donne pas une direction et qu'elle n'est pas suivie, si on donne une direction et qu'elle n'est pas suivie, eh ben, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce qu'on va ressentir cela ? Et c'est peut-être un des grands dangers, c'est quand on prophétise et qu'on voit le futur et qu'on voit la personne ne pas faire ce qui nous semblait que Dieu lui a dit de dire. Du coup, comme c'est quand même quelque chose, on donne une direction, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Du coup, la personne lui dit « Eh oh, tu pourrais te bouger un petit peu ?» Ou bien « Ce que j'ai dit, tu ne l'as pas reçu, donc quelque part, c'est moi que tu n'écoutes pas. Donc, je ne vaux rien, c'est ça ?» Et puis du coup, si on n'a pas l'amour quelque part, on va commencer à plonger. La question du temps. Temps chronos, kairos. Quand on est prophétique, on n'est pas réellement dans le temps, on est un petit peu anachronique, dans le sens où on n'est pas forcément là. Alors parfois les prophètes peuvent être, ils ont changé l'heure avant tout le monde, ou bien ils sont en retard d'un petit moment parce qu'ils n'ont pas fini un truc. Alors cette histoire de temps kairos et de temps chronos, attention. Parce que parfois quand on dit à quelqu'un, voilà c'est le temps de faire ci ou faire ça, c'est peut-être parce qu'en nous on a reçu la révélation que c'est le temps. Ben, peut-être que Dieu est déjà à l'œuvre partout ailleurs avec ce même processus. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire, parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, Dieu nous dit aujourd'hui que c'est le temps d'aimer les uns les autres. Oui, sauf que ça fait 2000 ans que c'est écrit, et voire plus, parce que c'est déjà dans l'Ancien Testament. Donc ça n'a jamais été, le temps-là n'a jamais été arrêté. On doit toujours s'aimer les uns les autres. Alors peut-être que pour nous, on a une révélation pour aujourd'hui. Mais quand on... Et parce que Dieu nous demande à faire à nous quelque chose. Donc ça, c'est un peu différent. Donc si nous on reçoit un temps kairos et qu'on met tout le monde dans le même temps, et ben du coup ça crée de la confusion. Et les gens disent mais ça arrive pas ou ça se passe pas ou. Donc attention avec ces deux trucs. Le temps kairos, c'est-à-dire l'ouverture, la porte de temps qui nous est donnée, il faut bien comprendre ce que c'est et pas vouloir faire rentrer tout le monde dans ce truc-là. Par exemple, ce qu'on a vécu pour le 11 novembre, c'était clairement un temps kairos. Parce que c'était un moment donné, c'était une date, c'était quelque chose, ça correspondait à quelque chose que Dieu voulait faire. Donc on va plus voir d'un peu plus près la prophétie. Et après on va... J'espère que je ne vous endors pas tous. Alors, on reprend le cadre. On parle de la prophétie. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. Et surtout à celui de prophétie. Je pense que c'est, parce que comme j'ai montré dans le schéma tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en relation. Qui va partir de la parole et connaissance et qui va mettre en route quelque chose. C'est comme si tu allais chez le docteur et qu'on te fasse des radios et qu'on te dit voilà, tu es malade. Tu as ci, tu as ça, tu as ça. Et qu'il n'y a jamais de proposition de protocole de guérison. Ça te sert à quoi de savoir que tu n'es pas bien ? Je dis, mais super, je sais que je ne suis pas bien, j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas me donner quelque chose ? Donc, le diagnostic n'est qu'une première étape. Et c'est comme si après, dans la prophétie, tu recevais l'ordonnance pour mettre les choses en route. Et de ces ordonnances, de nouveau, ordonnance donne une direction à suivre, quelque chose à prendre, arrive le moment où eh ben, on déclare les choses, on se met en action. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui proposons ça. Pourtant, c'est pour ça que c'est important d'être dans le repos. Laissons simplement Dieu agir. Quand on se connecte sur Internet, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est toutes les connaissances, est-ce qu'elles sont en nous ? on se connecte juste avec les serveurs qui ont les connaissances. Dans ces domaines prophétiques, c'est pareil avec Dieu. On se connecte avec celui-là qui a toute la connaissance. Et Seigneur, merci parce qu'en ce moment, tu continues à télécharger dans l'esprit des personnes des paroles prophétiques. Tout à l'heure, j'ai parlé du temps chronos et du temps kairos. Parfois, c'est intéressant, est-ce que la prophétie n'est que immédiate ? Est-ce que la prophétie n'est que immédiate dans le temps ? Non. Et puis parfois, il faut savoir garder le message. Je pense à ces personnes, en tout cas dans l'Ancien Testament, qui devaient marcher, quand ils disaient « va voir tel roi, va faire ci ». Et ils marchaient, ils prenaient un ou deux jours pour faire le voyage, pour aller quelque part, pour délivrer un message qui durait 5 minutes, et puis après ils repartaient. Eh bien, ça demandait de l'énergie, du temps pour proposer ça. Mais si entre-temps, on venait avec d'autres paroles prophétiques, est-ce que la personne s'arrêtait par rapport à ce qu'il avait reçu ? Il valait mieux pas, hein. Il y a même des histoires où des gens qui n'ont pas fait exactement ce que Dieu a été demandé, qui ont été un petit peu dévorés. Aïe ! Il y en a un qui ne devait pas manger au retour, et un autre gars l'invite, il dit « mais je suis prophète comme toi » et blabla. Quelqu'un a dit que cette personne avait un besoin de reconnaissance. Il était reconnu comme. Du coup, il s'est arrêté. Il en est mort. Il y a un autre endroit où quelqu'un devait frapper pour un signe parce qu'il devait parler à un roi. Et il dit « non, non, je ne te frappe pas. Si, non, si, non. Ok, tant pis, tu vas mourir. » Et puis il est parti, puis il s'est bouffé par un lion. Bon, heureusement qu'on n'est plus sur l'Ancien Testament. Il y a parfois des trucs un peu bizarres comme ça qui se passent. Ah. Mais restons sur ce que Dieu. L'idée, c'était pas vacant de dire attention, sois dans la crainte. C'est de prendre au sérieux ce que Dieu nous donne. Et si Dieu nous a donné une direction d'un point A à un point B, même si d'autres choses se mettent au milieu, ce qui est important, c'est la direction du point A au point B. Parce que si je fais des points C, D, E, F au milieu, mais que j'arrive jamais au point B, j'ai loupé ce que Dieu m'a demandé. Donc du coup, c'est important de comprendre quel est notre timing, qu'est-ce qu'est notre responsabilité, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est parfois difficile parce que, spécialement dans une église prophétique où il y a plein de choses qui viennent, et toi tu as vu un message et tu te dis, il faut aller, puis tout d'un coup tu as plein de trucs qui arrivent, et tu dis, mais je fais quoi avec tout ça? Donc, juste cool. Bien. Ceux qui prophétisent, au contraire, parlent aux hommes. Ils édifient, ils exhortent et ils consolent. Quels sont les verbes qui sont utilisés là ? Est-ce que c'est les verbes de punition, de reprise ? Quelle heure il est ? Je vois pas bien la montre du coup. Il est 20. Waouh ! Faut que j'essaie de me dépêcher. Je vais finir en 2 minutes. Je pense que Dieu veut édifier, il veut exhorter, il veut consoler. Personnellement, je suis mal à l'aise quand il y a des paroles, on reprend les gens en public. Si tu as quelque chose contre quelqu'un ou si ton frère a péché, va le voir seul. S'il ne t'écoute pas, donc après le premier place qui est un lieu d'intimité, tu le vois avec 2 ou 3 et après tu le vois avec toute l'église. Soyons juste prudents avec ça. Et c'est pas parce qu'on reçoit quelque chose qu'il faut le manifester devant tout le monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Dieu veut édifier, construire. Et je rappelle que c'est dans une famille, donc quand quelqu'un vient de l'extérieur, je serai aussi très prudent avec ça. Il faut écouter, mais soyons prudents. Et puis, à un moment donné, il y a tout un passage où on parle des dons en langue, et Paul parle, mais ça sert à quoi si personne ne comprend ce que je veux dire ? Alors, il dira plus loin que les paroles, les langues sont bien, parce que la personne s'édifie et qu'il dit des choses excellentes à Dieu. Où c'est écrit sous ? Tutoire action de grâce, donc c'est juste magnifique. Tu rends d'excellentes actions de grâce. C'est bien. Mais dans l'église, il dit, vaut mieux donner quelques paroles avec mon intelligence. Et là, on revoit que Dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Et c'est dans le cadre de la prophétie. Et c'est là où on voit que notre intelligence, elle est au travail. Elle n'est pas juste stérile à ne rien faire. Et on a le droit d'utiliser notre intelligence pour faire ce genre de choses. Nos dons. Par exemple, ce matin, il y a des personnes qui ont dessiné. Ils ont utilisé leur capacité, leur don, leur talent. Ils ne se sont pas déclarés eux-mêmes en arrivant « Ah, aujourd'hui, je sais dessiner. » Non, ils ont travaillé. Les musiciens, c'est pareil. Et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un travail qu'on fait. Donc notre intelligence peut être en œuvre, et c'est bien. Ouais, ça, je vous en ai déjà parlé. Quelques exemples rapides, et après on va passer à un temps pratique. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un temps de prière. Alors je parle bien de prophétie et pas de parole de connaissance. Même si on démarre, quand on a voulu démarrer notre école, à l'école Emmanuel à Saint-Louis, c'était en 84-83. Alors ma conversion avec Jocelyne, moi c'était 90, de nous interpeller sur l'école chrétienne en 91. Et puis du coup on est rentré quelques semaines plus tard, donc mars-avril. 91 sur le bien fondé de l'éducation chrétienne. Donc un jeune converti. Et on s'est lancé là-dedans. Ouais, l'école va s'ouvrir. Ça, on s'est pris 2-3 baffes parce que l'école ne s'est pas ouverte tout de suite. Mais on a persévéré. L'objectif était l'école va s'ouvrir. Et je ne crois pas que Dieu nous ait parlé aussi fortement pour nous laisser tomber. Donc on a persévéré avec lui, malgré les échecs. Et puis à un moment donné, on avait pris un grand temps de prière. C'était un temps qu'on appelait Rehoboth. Chercher Dieu, creuser le puits. Et au bout du compte, Dieu nous a dit, voilà, tu peux quitter ton travail. C'était en 94, l'école s'ouvrira en 95. Alors juste pour mémoire, c'était Jérémy avait, coucou Jérémy est là-bas, à peu près 3 ans, on avait 3 enfants. Je aussi ne travaille pas, elle s'occupait de la famille. Et moi, j'avais un boulot de cadre dans une entreprise, j'étais projeteur. Et il n'y avait pas de problème de travail. Voilà, quitte ton boulot et va ouvrir une école. Ça n'a pas été évident, mais le timing s'est respecté. En 94, j'ai quitté mon travail, j'ai fait une formation de 3 mois, que 95, l'école s'est ouverte. Donc j'ai pu voir que Dieu était fidèle dans cette action-là. Achat de voiture, parfois quand on parle à Dieu et je me rappelle parfaitement d'une voiture que je voulais acheter. Et Dieu m'a dit non. Ah, non, pas celle-là. L'autre venu ici. Les marches vers Marseille. Vous vous rappelez ça? Il y en a qui étaient là, dans cette fameuse marche. Qui c'est qui était là, la marche sur Marseille? Ah, Jocelyne. Anne est partie déjà? Non mais Anne est là. Ok. Alors pourquoi je parle de celle-là? Parce que la première révélation est venue au travers de la télévision. Donc on savait qu'on va faire une marche, c'était programmé. Ça n'y avait rien de nouveau. Mais je me rappelle parfaitement ce moment où, regardant la télévision, où je vois des rivières à sec et les gens disaient, mais il y a 6-7 mètres d'eau qui manquent ici. Et c'est à ce moment-là, Dieu dit, c'est ce que je veux maintenant, je veux remplir ces rivières. Donc il y a la parole de connaissance et Dieu ce que vous voulez faire. Et quand on a démarré la marche, on a une petite réunion ici. Rappelez-vous cette petite réunion. C'était au mois d'avril, c'était bien sec, c'était beau. Oubliez une petite marche au soleil, bien sympathique, dans le sud de la France. Il va pleuvoir. On est parti, on s'est réunis à Lyon, et puis on a commencé à marcher. Et il a plu. Cool. Il a plu pendant les 10 jours. Il y a eu 2 jours où ça n'a pas fait si mauvais, mais on voyait la neige dans les Alpes de Haute-Provence, un peu plus loin. Les gens disaient, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ce climat-là. La pluie est tombée et c'était un signe que Dieu voulait faire reverdir la terre, la bénir. Donc Dieu a donné une parole au travers d'un outil aussi bizarre que la télévision. Et la pluie est venue. Ça, c'était juste magnifique. pour une personne un jour, un papillon, ça je me rappelle, c'était sur Gagnères, on avait pris un temps de prière pour cette personne. Et je me rappelle, je lui dis, mais j'étais comme un papillon qui veut éclore. Et après, j'ai pu prophétiser, prier avec elle. Et elle disait, mais ce matin, je me suis promené, je disais, mais je veux sortir, je suis comme un papillon qui a besoin de liberté. La parole de connaissance déclarait ce qu'elle avait ressenti le matin. Et après, on a commencé à prophétiser. Les bannières, trop souvent. Et parfois, on peut se planter. La bourse. Je me rappelle, quand on avait fait la marche en Amérique, autour du comté de Lancaster, je crois que j'avais déjà partagé celle-là, mais je la répète parce qu'on peut se planter. À la fin, on était encore en Amérique et j'ai vu des trucs à la bourse avec plein de corbeilles, les petits papiers qui descendaient, comme parfois on les voit là, dans les films. Et on voyait, dans mon euphorie de ce qu'on avait vécu, je pensais que c'était un signe plutôt positif parce qu'on avait vécu 3 semaines juste incroyables. Quelques semaines plus tard, il y avait le krach boursier. Voilà, je me suis planté. J'ai bien reçu la parole, tu m'avais montré ce qui se passait, mais je n'ai pas suffisamment écouté ce que Dieu voulait. Je suis resté sur une révélation précédente, je n'ai pas réussi à basculer sur une nouvelle, et la révélation précédente m'a empêché de comprendre la nouvelle. Aïe. Donc, attention. Attention à ce que parfois, on reçoit. C'est parfois difficile de marcher dans la révélation des autres. Je reconnais que c'est pas toujours simple. Ok. Donc c'était un petit survol du cas de la prophétie. Du fait qu'il faut qu'il y ait des lieux de formation. Ça, j'ai peut-être oublié, mais vous savez quoi? Par exemple, dans je ne sais plus où c'est que j'ai marqué ça. Bref, je ne sais plus. Mais je l'ai quand même marqué, donc je me vais en rappeler. Les échos de prophètes. C'est un passage dans 2 Rois, au début, je ne sais plus quel exactement le chapitre, je crois que c'est 2 Rois 2. Et on commence par dire les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Je crois que c'est 2 Rois 2. Après, et juste quelques versets plus tard, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. C'est plus les mêmes. Et après, on parle des fils des prophètes qui viennent à leur rencontre. Ils étaient 50. Et c'est intéressant, ce que sont les fils des prophètes. Est-ce que tous les prophètes s'étaient réunis pour avoir des fils ensemble? Non. Je pense que spirituellement, on parlait des fils spirituels des prophètes, qui travaillaient ensemble. Et à un moment donné, dans 2 Rois 6 ou 7, je ne sais plus, ils sont en train de bâtir une maison ensemble. Ils perdent une hache et Dieu, Élisée, leur permet de retrouver. Donc on a besoin de lieux de formation, des lieux cadres, des lieux de sécurité où on apprend pour manifester vers l'extérieur. Voilà, on va prendre un temps de prière. Alors, comme je suis dans une école d'église très prophétique, vous avez tous prophétisé. Je crois pas qu'il y ait... Il me semble pas qu'ici, aucun n'est pas prophétisé, d'une manière ou d'une autre. Donc vous n'apprenez rien de nouveau, entre guillemets. Mais l'idée, c'est de la reposer à cadre, je voudrais qu'on puisse retravailler plus longuement là-dessus, et un jour avoir des heures et des heures de formation, et qu'on puisse réactiver ce truc-là. Je ne sais pas si vous avez vu encore ce matin, on a réactivé un peu tout ce qui était de la danse il y a 15 jours, le 12 janvier, et tout d'un coup, on a un développement qui est là, sur lequel on peut continuer à travailler, parce que quelque chose a été activé. Moi, je propose qu'on puisse faire quelque chose comme ça ce matin. C'est-à-dire qu'on va prendre, je vais juste prier pour finir, et qu'après, vous puissiez vous laisser interpeller, puis venir prendre un ou deux objets pour prophétiser pour quelqu'un. Et puis après, vous le ramenez là. Ça joue? Parce que si je demande qui c'est qui n'a pas jamais prophétisé, à mon avis, ça sera très court. Donc je ne vais pas faire ça. Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour les révélations que tu donnes. Merci parce que quand bien même notre intelligence ou notre âme était peut-être connectée ailleurs, toi tu as parlé au cœur des uns et des autres. Tu es venu répandre ton esprit, tu es venu communiquer. Alléluia Jésus. Prie maintenant, on veut déverrouiller ces choses-là dans les esprits, pour qu'elles descendent dans l'âme et puis qu'elles puissent être manifestées. Je prie pour que ces paroles de prophétie, ces paroles de connaissance et de prophétie puissent être déclarées, communiquées,
qu'elle puisse porter du fruit, et du fruit en abondance. Seigneur, merci pour les dons que tu nous donnes, et on vient les aspirer avec toi. Tu as dit d'aspirer, alors là maintenant on veut venir aspirer. Aspirer ce que tu nous as à nous donner. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta paix et ton repos dans nos âmes et dans nos esprits, dans nos corps aussi. Mais j'appelle en même temps cette capacité prophétique à venir être réveillée. Que les prophètes se lèvent,